Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. La Sainte Eucharistie et la Sainte Messe sont en quelque sorte quelque chose de surabondant dans l'œuvre de la rédemption. La Passion et le Calvaire suffisaient pour nous réconcilier avec Dieu et pour nous ouvrir les portes du ciel. Alors pourquoi la Sainte Messe ? Pourquoi la Sainte Eucharistie ? Il y a à cela plusieurs raisons. Mais la première raison est à chercher du côté de Dieu. Si notre Seigneur institue la Sainte Eucharistie, c'est d'abord pour lui, pour satisfaire les besoins de son cœur. Comme on lit dans le livre de la Sagesse, « Mes délices sont d'être auprès des enfants des hommes ». L'amour, comme disaient les scolastiques, est « diffusivum sui », diffusif de lui-même. Or, Jésus est amour. Il veut se donner, non pas une fois, mais tous les jours, et à tous ceux qui voudront bien le recevoir. Il a soif de nos âmes, soif que le don de sa vie sur la croix n'a pas pu épuiser. En quelque sorte, il veut que son sacrifice perdure, que le don qu'il fait de lui-même perdure. Il est le premier-né d'une multitude de frères et il veut rester avec ses frères qu'il s'est conquis par le sacrifice de la croix. Il veut rester avec tous ceux qu'il a sauvés et qui sont désormais son partage. Alors vous le voyez, l'Eucharistie, c'est d'abord un besoin du cœur de Jésus. Et il est bon de méditer cela. Ça nous permet de renouveler le regard que nous portons sur ce mystère. Avec le temps, nous risquons de banaliser, de ne plus trop comprendre toute la richesse et la grandeur de ce mystère. Mais si l'Eucharistie est un besoin du cœur de Jésus, c'est aussi un besoin pour notre propre cœur. Vous connaissez la phrase de saint Augustin, « Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il n'est pas en vous. » Jésus nous aime, mais il veut que nous l'aimions en retour. Et nous ne pourrons pas trouver la paix, le bonheur, en dehors de cet amour de Dieu. Et Jésus veut que nous l'aimions d'un amour total. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Or, sans l'Eucharistie, notre amour de Jésus-Christ risquerait de n'être qu'un amour passé, que nous oublierions bien vite. Parce que l'amour a ses lois, l'amour a des exigences. Et seul l'Eucharistie réalise et satisfait pleinement ses exigences. Alors quelles sont-elles ces lois de l'amour, ces exigences de l'amour? Il y en a trois. La première, c'est la présence. Ensuite, c'est la communauté de biens. Et puis enfin, c'est l'union parfaite. Le véritable amour réclame ces trois choses. Alors d'abord, la présence. Nous le savons par expérience, la peine, le tourment de l'amour ou de l'amitié, c'est l'absence. L'éloignement de l'ami affaiblit l'amitié et même finit, si cet éloignement se prolonge trop, par tuer l'amitié, même l'amitié la plus forte. Alors si notre Seigneur était absent pour nous qui vivons 2000 ans après son ascension, si notre Seigneur était resté éloigné, s'il ne nous avait pas laissé la Sainte Eucharistie, eh bien notre amour pour lui subirait l'effet dissolvant de l'absence. On finirait par l'oublier. D'ailleurs, voyez les apôtres, quand notre Seigneur était au tombeau, peu de temps après sa disparition, ça n'a duré que quelques heures, eh bien les disciples d'Emmaüs le disent déjà. Ils ont presque perdu la foi, ils désespèrent. Le Maître n'est plus là. Si notre Seigneur nous avait laissé aucun autre gage de son amour que la crèche et le calvaire, eh bien nous l'eussions vite oublié. Nous serions devenus indifférents. C'est dans la nature de l'amour de réclamer la présence de l'objet ou de la personne aimée. C'est une loi de l'amour. Rien ne remplace la personne aimée, ni les souvenirs, ni les dons, ni même les portraits. Tout cela n'a pas de vie. Il faut la présence. C'est la présence qui donne la vie à l'amour ou à l'amitié. L'amour veut voir, il veut entendre, il veut converser, Il veut toucher. Et notre Seigneur le savait bien. Rien n'aurait pu remplacer sa personne. Alors, il a institué la Sainte Messe et la Sainte Eucharistie. À cela, nous pourrions objecter, nous avons sa parole. Il nous a laissé la parole de Dieu, son évangile. Et puis nous avons aussi la grâce que donnent les sacrements. Tout ça est vrai. Mais qu'est-ce qui donne la vie à sa parole? Qu'est-ce qui la rend vibrante? Qu'est-ce qui rend sa grâce efficace dans nos cœurs? Eh bien, c'est sa présence à lui, l'auteur de la grâce. Non seulement notre Seigneur nous fait ses dons, mais avec les dons, nous recevons le donateur. Et c'est cela qui donne tant de prix à ses dons. C'est parce que notre Seigneur ne se contente pas simplement de donner quelques grâces. Il vient lui-même dans nos âmes en même temps qu'il se donne. Et puis nous pourrions dire aussi, dans la Sainte Eucharistie, nous ne voyons pas notre Seigneur. Nous ne le touchons pas. Sa présence est voilée en quelque sorte sous les apparences de l'hostie. Alors, finalement, la présence de notre Seigneur n'est pas bien réelle. Si, elle est parfaitement réelle. Par la foi, nous savons qu'il est là. Nous conversons avec lui comme avec une personne vivante. Nous le recevons tel qu'il est réellement, actuellement, au ciel, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Ce n'est pas un souvenir, ce n'est pas une image, c'est réel. Même si le mode de sa présence dans la Sainte Eucharistie est un mode sacramentel, le mode sacramentel est un mode réel. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole. Si notre Seigneur ne nous avait laissé que ses enseignements et le récit de sa vie, eh bien nous serions les plus malheureux des hommes. Nous n'aurions pas la consolation de sa présence pour nous soutenir, et nous serions néanmoins, par les exigences de notre religion, obligés de nous priver des consolations terrestres que connaissent les mondains. Alors ce serait bien difficile, ce serait même peut-être insupportable. Nous serions finalement des exilés bien malheureux. Et voyez d'ailleurs les protestants, c'est exactement ce qui se passe pour eux. Ils ne croient pas à la présence réelle. Pour eux, tout ça, ça n'est que des souvenirs, quelque chose de passé. Eh bien, à cause de cela, le protestantisme est froid. C'est une religion glacée, inhumaine, toute théorique, cérébrale, moralisante. Il lui manque la présence de notre Seigneur Jésus-Christ vivant au milieu des siens. Et ça, nous, nous l'avons. Mais hélas, nous ne nous rendons pas toujours bien compte de cette richesse extraordinaire. Alors c'est la première loi de l'amour, ça, la présence. Il y a une deuxième loi. L'amour veut encore la communauté de biens. Il veut partager, il veut se donner. Il n'y a pas d'amour sans don. Ça fait partie de sa nature. Or, n'est-ce pas surtout dans la Sainte Eucharistie que Jésus se donne avec profusion, avec prodigalité? Il nous donne tout, sa vie divine, ses mérites, ses satisfactions, sa croix, ses lumières, ses grâces, quelque chose de sa gloire même. Tout cela, il nous le donne. Et non seulement il nous donne quelque chose de lui-même, mais il se donne lui-même en personne. Et tous ses dons, tous ses biens, c'est à travers lui que nous les recevons. Et il se donne lui-même à tous ceux qui le veulent, et cela toujours, jusqu'à la fin du monde et partout, quel que soit le lieu où nous vivons. Quelle merveille, quel trésor. Nous avons du mal à réaliser ce que cela représente. Mais pourtant, nous sommes les plus riches des hommes. Et il est bon, à l'occasion de ces solennités, de se redire ces choses, de les méditer, d'essayer de les comprendre un petit peu mieux chaque année. Et puis enfin, c'est la troisième loi de l'amour. L'amour exige l'union. C'est sa tendance finale. L'amour veut l'union, la fusion de ceux qui s'aiment, pour qu'il ne soit plus deux cœurs, deux âmes, mais une seule. Comme le dit saint Augustin dans sa règle, « Cor unum et anima una ». Eh bien, c'est exactement, littéralement, ce que réalise la Sainte Eucharistie. Après avoir partagé notre état, notre vie, lorsqu'il était sur terre, Jésus se donne à nous en communion, en nourriture, comme la nourriture de nos âmes. En d'autres termes, il se fond en nous. Ou plutôt, ils nous font en lui. Car vous savez, c'est cela qui est merveilleux dans la Sainte Eucharistie. Il n'en va pas de la communion comme d'une nourriture ordinaire. Nos nourritures humaines, quand nous les assimilons, et bien précisément, nous les assimilons. Elles se transforment en nous-mêmes. Là, c'est l'inverse qui se produit. C'est Jésus lui-même qui nous transforme en lui-même, qui nous assimile, qui nous fond en lui, qui nous unit à lui et nous transforme en lui. Et cette union, si nous communions comme il faut, est appelée à devenir de plus en plus parfaite, de plus en plus intime au fil des communions. C'est le grand moyen de l'union à Dieu. Or, l'union à Dieu, c'est la fin, c'est le but de toute la vie chrétienne. Et ce n'est pas simplement réservé à une petite élite, normalement, c'est la voie normale. Nous devrions tous atteindre cette union à Dieu. Hélas, la vivacité de nos désirs étant souvent absente, nous manquons d'ardeur, de ferveur, de désir, alors nos communions restent tièdes. Et pourtant, notre Seigneur le dit lui-même dans l'Évangile, « In me manet et ego ineo ». Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Il faut prendre les mots ici dans leur sens fort. Demeure en moi et moi en lui. Nous sommes comme transportés en notre Seigneur et notre Seigneur est transporté en nous et il nous transforme. Nous ne faisons plus qu'un avec lui en attendant que cette union soit consommée définitivement dans la vie du ciel. Alors évidemment, encore une fois, cela suppose de notre côté des dispositions qui, hélas, manquent souvent. C'est bien pour ça que notre Seigneur nous permet de communier d'ailleurs si souvent. C'est qu'il sait bien que nous sommes imparfaits et que nous avons besoin de renouveler souvent ce geste, cet acte. En soi, normalement, une seule communion devrait suffire à nous rendre saints, parfaitement saints. Mais, dans sa bonté, notre Seigneur nous permet de communier très souvent. Alors, il faut communier en étant bien disposé, si nous voulons que nos communions soient fructueuses. Il faut les préparer, il faut remercier, et il faut tendre à ce que chaque communion soit meilleure. En tout cas, voyez comme ce mystère est grand, comme il mérite qu'on le médite, qu'on vienne se ressourcer auprès du tabernacle, qu'on vienne adorer, remercier, louer, écouter, converser avec le bon Dieu. Il est là, réellement présent, et il nous aime, et il veut l'union de notre cœur avec le sien. Saint Augustin, dans un texte qu'on a lu le mercredi de l'octave de la Pentecôte, au fil d'un commentaire, à cette petite confidence. Il vient de parler du grand mystère de l'attirance. Dieu nous attire. Si nous n'étions pas attirés par Dieu, nous ne pourrions pas vraiment aller à lui. Et alors, après avoir expliqué ces choses, il dit ceci, « Donnez-moi quelqu'un qui aime et il sentira ce que je dis. » Eh bien, c'est tout à fait vrai pour ce mystère de la Sainte Eucharistie. « Donnez-moi quelqu'un qui aime. » Si vraiment nous aimons notre Seigneur, si nous savons goûter toutes les grandeurs et les merveilles qu'il a ainsi enfermées dans ce mystère de la Sainte Eucharistie, de la Sainte Messe, si vraiment nous comprenons ces choses, alors on comprend tout ce que nous disons ici. Et nous sommes comme transportés. Alors pour terminer, faisons un examen de conscience sur nos communions, nos visites au Saint-Sacrement, notre assistance à la Messe. Que d'indifférence parfois, d'indélicatesse, d'ingratitude. Peut-être même des communions indignes. Demandons à notre Seigneur Jésus-Christ, à la Vierge Marie, de nous donner la grâce de communier de mieux en mieux et d'adorer, d'aimer ce sacrement extraordinaire que notre Seigneur nous a laissé, qui est le plus beau, le plus excellent de tous les sacrements, celui dont tous les autres tirent en quelque sorte leur richesse, leur grandeur. Que tout cela, donc, soit pour nous un objet de méditation et puis que chaque nouvelle communion soit meilleure que la précédente. C'est la grâce que nous demanderons à la Vierge Marie au cours de cette messe. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.